CKUT 90.3 FM, Montreal.
Vous écoutez Les Bossons avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir et merci d'être à l'écoute. Notre invitée, Jade Assouni, s'est fait connaître à travers le monde dans la série américaine Shadowhunters, diffusée sur Netflix jusqu'en 2019. Elle est aussi connue pour son rôle de Sam dans That's My DJ, ainsi que dans la série canadienne Heartland, diffusée sur CBC. Vous l'avez peut-être remarqué dans la série québécoise Alerte, diffusée à TVA, qui lui a valu une nomination au prix Gémeaux 2021 dans la catégorie Meilleur rôle de soutien masculin. Son entrevue à Tout le monde en parle en mars 2021 m'a tellement inspirée que depuis, je souhaitais vraiment le recevoir comme invitée. Elle est aussi auteur-compositeur-interprète et en août dernier, il a présenté ses chansons lors du spectacle Excellence de Fierté Montréal. Étonnamment, c'est au barbecue organisé par le Réseau des lesbiennes du Québec que j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois, alors qu'elle accompagnait son amie. Et je suis tellement heureuse qu'elle ait accepté l'invitation. Bonsoir, Jade Assouni.
Bonsoir, Nathalie. C'est très gentil de m'avoir invitée. Et très cool comment on s'est rencontrés et tout.
Oui, vraiment. J'aimerais ça revenir justement sur ta performance incroyable au spectacle Excellence de Fierté Montréal. Comment ça s'est passé pour toi?
Super bien. Faire Fierté, c'était un de mes rêves. C'était un de mes goals, tu sais, pour mon plan des 5 prochaines années. Je me suis dit, OK, si je fais Fierté, tu sais, je vais être sur le bon chemin. Puis je vais continuer à essayer de faire des Fiertés d'un petit peu partout au Québec. Puis après au Canada, puis un petit peu, tu sais, faire un petit peu ça. Donc, j'étais vraiment content que ça s'est passé. Je ne m'attendais pas à ça, surtout pas cette année. Mais les choses se sont passées, tu sais, vraiment organiquement. J'ai signé avec mon nouveau manager Arnaud, puis, tu sais, comme une semaine, deux semaines. En fait, le jour qu'on a fait l'annonce qu'on travaille ensemble, ben là, ça s'est passé. Puis, Fierté, on contactait Arnaud, puis on dit, on le veut dans le show. Même s'il y avait déjà des artistes qui étaient invités et tout, et ils m'ont rajouté aux choses. Donc, c'était vraiment cool. C'est super bien passé. J'étais stressé parce que j'avais pas vraiment de. Je ne m'attendais pas à faire un show aussi rapidement, tu sais.
Mais ça devait être spécial parce qu'il n'y avait pas de public non plus pendant le spectacle. J'imagine qu'il y aurait eu une foule en délire.
C'est très gentil, ouais. Ouais, c'était très différent. C'était plus comme un plateau de tournage, tu sais. C'était une prestation de télé. Puis
c'était dans diffusé en ligne.
Ouais, c'était diffusé en ligne. Ils ont fait un événement finalement en personne, tu sais, qu'on ne s'attendait pas parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient le diffuser au Parc Olympique la journée même. Puis ça, c'était une surprise.
Est-ce que tu es allé?
Oui, je suis allé. Puis plein de mes amis sont allés. Puis on était super bien entourés. Puis c'était tellement cool d'être dans la foule puis d'écouter le show, tu sais, parce que j'ai pu danser puis chanter avec tout le monde. C'était super nice.
Le goût de faire de la musique est arrivé de quelle manière dans ta vie?
Je l'ai toujours eu dans ma vie. Ma mère jouait du piano depuis que je suis petit. Puis j'écoutais toujours ça. Puis je me suis toujours dit qu'un jour j'allais me lancer en musique. J'ai toujours fait ça, tu sais, depuis que je suis petit. J'ai pris des cours quand j'avais 6 ans. Puis plus tard, dans mon adolescence, j'ai pris des cours de guitare. Puis je faisais piano. Guitare, puis je chantais tout le temps, puis je voulais vraiment faire ça, tu sais. Mais pour moi, devenir comédien, c'était un petit peu plus logique dans ma tête. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je savais comment le faire. Tu savais que je pouvais pratiquer, étudier, rentrer là-dedans, puis que ça allait être plus facile. Je sais pas pourquoi, ça m'a. Tu sais, même si je fais plein de formes d'art, comme je dessine aussi, puis tout ça, mais je savais que faire du théâtre, faire du acting, ça allait être plus facile. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça fonctionnait comme ça. Donc je l'ai fait, puis je savais qu'un jour, j'allais rencontrer les opportunités pour pouvoir faire de la musique et tout ça. Puis quand Shadowhunters a terminé, j'ai su que c'était vraiment le moment parce que j'avais un public, des gens qui étaient intéressés à voir ce que je faisais. Donc, je me suis dit, OK, c'est ma chance, il faut que je me lance là-dedans.
Mais tu savais jeune déjà que tu voulais être
chanteur? Ah, ouais, j'ai toujours voulu être chanteur depuis que je suis petit.
Acteur aussi?
Acteur, oui, depuis que j'ai 10 ans. Comme j'ai vraiment eu un genre de feeling que c'était genre ma mission ou comme mon calling un peu de faire du théâtre. Parce que quand je suis monté sur scène la première fois, je l'ai vraiment senti. Puis mon cœur s'est comme vraiment connecté. Donc, j'ai su, OK, c'est ça que je veux faire. C'était plus clair pour moi le chemin pour y arriver que la musique. La musique, c'était un petit peu plus vague, nébuleux un peu. Puis là, ça s'est un peu rassemblé parce que je faisais aussi de la danse. Donc, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, mais je pense que j'ai pris le chemin le plus simple. Même s'il y a des gens qui diraient que prendre le chemin du acting, c'est vraiment pas la plus simple.
Mais ça peut regrouper les trois.
C'est ça, c'est pour ça. Ça faisait du sens logiquement pour moi, tu sais.
Et t'es né au Liban, mais c'est à Montréal que t'as passé la majorité de ta vie.
Ouais.
Pourquoi as-tu choisi d'étudier le théâtre en anglais?
Ben, de un, je savais pas qu'il y avait une division dans les industries, tu sais, du cinéma, de la télé au Québec. Comme, moi, je pensais que c'était toute la même chose. Mais il y a vraiment le côté français, le côté anglais. Puis je me suis dit, OK, je veux aller à Hollywood, tu sais, éventuellement. So, je voulais m'ouvrir plus de portes. So, j'ai dit dans l'anglais, tu sais. Parce que je parlais pas trop anglais avant, même au secondaire. J'ai vraiment commencé à parler anglais à la fin du secondaire 5. Puis après, je suis rentré au cégep en anglais aussi. Il fallait vraiment que je me change complètement. Puis là, j'ai fini. Puis je suis sorti de là. Puis j'ai réalisé, ah, OK, c'est vraiment deux industries différentes. Puis les gens qui étudient en français, ben, ils vont aller dans l'industrie française. Ceux qui étudient en anglais, la même chose, tu sais.
Donc, toi, t'as été étudié en anglais, mais tu désirais quand même jouer en français.
Oui, oui, vraiment.
Puis ça fonctionne pas comme ça?
Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais des fois, ça transfère. Mais c'est drôle parce que j'ai fait, comme un de mes premiers projets, c'était un film qui s'appelle Laurency.
Oui, j'ai vu. Ouais. C'est un film québécois.
Ouais, exact. Puis ça, c'était un de mes premiers rôles, mais j'étais engagé en tant qu'acteur anglais. C'est comme ça qu'ils m'ont trouvé. Et puis finalement, je parlais québécois. Ils sont comme, ah, tu parles? Ouais, ouais, ouais. Fait que, avec les réalisateurs, on se parlait en français, puis
dans
mon rôle
film...
était anglais.
OK, dans le film, tu parles juste en anglais.
So, des fois, ça se passe, tu sais, ça croise. Mais j'ai réalisé après, en fait, puis je me suis dit, ah, OK, donc ça va pas vraiment se passer comme ça. Mais c'est pour ça que je suis vraiment content que maintenant ça se passe. Parce que, tu sais, je suis parti, puis tout ça. Puis là, finalement, je reviens au Québec. Puis là, les choses cliquent. Puis comme, je suis content, tu sais, d'être célébré ici, là, chez moi. C'est nice.
Oui, absolument. Tu as passé beaucoup de temps entre Toronto et Hollywood, justement.
Ouais.
Et c'est à quel moment que tu as décidé de revenir à Montréal?
C'est en fait quand Shadowhunters s'est terminé, on avait commencé à faire des tournées pour justement rencontrer les fans de la série en Europe. So, on commençait à voyager quand même beaucoup, puis j'avais toutes mes choses à Toronto, puis j'avais terminé. J'ai réalisé que je voulais plus vraiment payer un loyer là-bas, puis j'allais ramener mes choses à Montréal parce que ça allait être moins cher, plus facile. J'ai ramené mes choses proches de ma famille et tout, puis je l'ai fait et j'ai continué à voyager beaucoup et tout ça. Puis naturellement, ça m'a ramené ici, tu sais. Je me suis aussi dit que je voulais faire de la musique puis vraiment me concentrer sur mes propres choses. Parce que j'aurais pu choisir de partir à LA puis de rester là-bas puis de faire la compétition pour continuer à avoir des rôles et tout ça. Puis il y a une partie de moi qui voulait vraiment faire ça, mais une partie de moi qui voulait juste revenir à Montréal, être créatif. Parce que c'est vraiment une ville ici pour, tu sais, prendre le temps d'être créatif, faire nos propres choses. Je sais pas, c'est plus accessible, on dirait, ici. C'est plus facile de vivre. C'est moins une compétition aussi. Tu sais, je voulais être à mon rythme puis dans mes choses. Donc, j'ai ramené mes choses ici. J'ai commencé à écrire ma musique. Naturellement, il y a des choses qui se sont passées. Comme, par exemple, c'est Gros Plan qui ont casté Alerte, OK? Puis c'est eux qui m'ont invité. Mais avant ça, il y avait une autre série que, parce que j'étais ici, ils m'ont demandé en audition. Et puis, j'ai failli avoir le rôle. Donc, j'étais ici. Puis ça, c'était un an avant Alerte. Donc, c'est il y a 2 ans, peut-être 3 ans de ça. Et ils m'ont dit, eh, hey, viens, auditionne pour ça. Est-ce que j'ai hâte d'être à Montréal? Demande à mon agent. Je dis, ouais, t'es à Montréal, il peut venir pour l'audition et tout. Et finalement, tu sais, c'est quelqu'un d'autre qui a eu le rôle, mais ils m'ont rappelé pour Alerte, en fait, un an plus tard. Donc, j'avais déjà cette relation avec eux, puis j'avais passé à travers toutes ces auditions et tout. Donc, ils savaient que peut-être potentiellement, tu sais, j'étais ici pour ça. Donc, tu sais, c'était des choses vraiment naturelles qui se sont passées. Comme, je me suis pas dit, OK, je vais retourner à Montréal nécessairement, parce que je partais souvent encore à LA, puis à Toronto et tout. Et là, fast forward, un an plus tard, je suis ici. Et puis il y a un metteur en scène qui veut faire une pièce de théâtre, puis on se rencontre, puis finalement il me donne le contrat, et c'était à l'usine C, et
nice.
C'est Philippe Cyr, le metteur en scène. Ça s'appelait Atteinte à sa vie. En fait, on l'a jamais monté parce que notre première semaine de rentrée en salle, ben, les premiers lockdowns en mars ont commencé, début de la pandémie. Donc là, je me suis retrouvé à faire une pièce de théâtre ici pendant 6 mois, donc j'étais vraiment revenu à Montréal. Puis pendant cette pièce de théâtre, ben, j'ai auditionné pour Alerte, puis même cet été-là, j'ai fait un film qui s'en vient bientôt. Donc là, j'étais naturellement revenu à Montréal, tu comprends? Puis j'avais des contrats ici, donc je suis resté.
Donc c'est bien parti, là, pour
ouais,
toi, ici.
Ouais, ouais, c'était bien parti. Puis, tu sais, j'ai rencontré d'autres gens qui étaient à Montréal pour faire de la musique, tu sais, parce que, justement, je connaissais pas trop grand monde dans l'industrie de la musique, qui est très différente de la télé, tu sais, c'est complètement différent. Fait que j'étais vraiment comme un bébé dans une nouvelle industrie, tu sais, avec plein d'expériences, mais qui matchait pas trop avec où je voulais aller, tu sais. So, là, j'ai commencé à faire mes propres choses un peu indépendant et comme vraiment indépendant et tout. Puis là, lentement, j'ai rencontré des gens qui sont sont dans l'industrie de la musique à Montréal, mais aussi à la télé. Tu sais, tout s'est connecté. Puis là, tout d'un coup, j'étais dans le milieu québécois, sur une série à TVA. Et là, je me suis lancé en musique en français. Puis comme le tout a vraiment comme est parti, genre, c'est vraiment cool.
Tu sembles être toujours au bon endroit, au bon moment.
Ouais, je me suis toujours connecté à ça, tu sais, que si je pouvais rêver à quelque chose, ça pouvait se passer. Puis souvent, ça m'a montré que c'est vrai. C'est drôle parce que je suis dans une nouvelle phase maintenant où est-ce que je vois pas trop comment les choses vont se passer. T'sais, je reviens toujours à un genre de reset où je sais pas où ça s'en va, mais ça a toujours fonctionné. Fait que j'essaie de me baser là-dessus. Comme ça fonctionne tout le temps, puis ça s'en va tout le temps à quelque part, même si je sais pas. T'sais.
Et qu'est-ce que tu retiens de ton expérience d'acteur du côté anglophone? Est-ce que tu as vécu des grandes choses à Hollywood vu que c'était ton rêve d'arriver là? T'as-tu rencontré des acteurs ou des actrices que tu avais vraiment envie de rencontrer?
Ouais, quand même. C'est cool parce que d'une manière, j'ai toujours été un peu connecté à ce genre-là parce qu'un de mes premiers films, c'est un film de Disney qui ont filmé ici, mais c'est ABC Family en fait, parce que c'est la même station qu'aux États-Unis, Shadowhunters jouait dessus. Ça a juste changé de nom. De ABC Family, c'est devenu Freeform. Fait que Freeform, qui est une branche de Disney, sont devenus Freeform grâce à Shadowhunters. Ils ont comme rebrandé le tout, puis nous, c'était la raison pour laquelle. En tout cas, ils voulaient rendre ça plus jeune adulte et moins genre enfant. Et c'est drôle parce que j'ai fait un film ici à Montréal, un de mes premiers en 2010. Je jouais un jeune adolescent qui se faisait bully parce qu'il était gay, puis ça s'appelait Cyberbully, le film, justement, puis... J'ai rencontré Emily Osment, qui jouait la meilleure amie de Hannah Montana avec Miley Cyrus, OK? Cela, elle lançait sa carrière solo aussi. Elle a fait un film ici à Montréal. J'ai eu un des rôles. Donc, on s'est rencontrés. Et puis, je me rappelle, j'avais dit, hey, c'était vraiment cool de te rencontrer, tu sais. On va se revoir un jour, tu vois? Puis là, je l'ai laissé ça dans sa roulotte. Puis là, 10 ans plus tard, je suis à LA pour le lancement de Shadowhunters. Puis c'était comme un party dans les hills avec une piscine chez le producteur. C'est vraiment comme Hollywood party, genre.
Comme des films, là.
Ouais, exact. Puis voilà, j'arrive au bar, puis elle a... Puis je suis comme, hey, tu te souviens de moi? Tu vois, oui, tu m'as écrit là-dedans. Je te dis, ouais, ben voilà, on y est, tu sais. Parce que nos émissions, parce qu'elle avait une émission aussi dans le même canal, c'était comme le lancement de la saison, dans le fond aussi. Puis là, c'était aussi le lancement de Shadowhunters. Donc, tu vois, la vie qui est vraiment connectée comme ça. Donc, c'était vraiment cool parce que j'ai réalisé que même vivre le rêve de Hollywood et tout ça, genre, j'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'étais 100% moi-même, tu comprends? Puis j'y ai pensé souvent en grandissant, tu sais, puis surtout en étant gay, puis tout, comme pas trop sûr comment je vais montrer ça au monde, puis whatever. Genre, des fois, je pensais qu'il fallait que je devienne quelqu'un d'autre pour réussir ou des trucs comme ça, mais finalement, non, j'étais moi à 100%, puis j'étais en train de vivre le rêve que j'avais eu, tu sais. Ça, c'était très spécial. Puis des gens que j'ai vraiment aimés, on s'amusait tellement, puis ça, c'était vraiment très vrai, disons, tu sais, c'était pas fake du tout de la façon qu'on imagine Hollywood, même si, oui, il y a vraiment de ça aussi. Mais je l'ai vécu d'une vraiment bonne manière. Puis tu sais, je suis arrivé à Los Angeles, j'avais déjà un groupe, j'avais déjà une émission. C'est pas comme si je suis arrivé de rien puis que j'ai vraiment essayé de comme compétitionner contre les autres.
Mais t'étais déjà engagé.
C'est ça. So, c'était plus une célébration de ce qu'on avait fait. So, c'était vraiment une bonne position. Ouais.
On va poursuivre en musique avec ta chanson To The Next. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson-là?
To The Next, c'était vraiment intéressant parce que tu sais, au début, je disais aux gens que je voulais faire de la musique, puis les gens étaient pas trop sûrs ou ils croyaient pas trop. Puis des fois, je leur faisais écouter un petit démo ici, une petite affaire là, puis tout le monde avait des opinions. Puis c'était un peu une manière pour moi de me donner du courage, puis de me dire que même s'ils aiment pas ça, tu sais, je leur fais écouter quelque chose, même si c'est le résultat final, tout le monde aura toujours des arguments ou leur opinion là-dessus. Mais moi, tu sais, je crée une chanson et j'en crée une autre et je vais être meilleur pour la prochaine et la prochaine et la prochaine. T'sais, c'est un petit peu ça. Ça peut être interprété de plein de manières, comme on to the next person ou genre, tu sais, des choses comme ça. Mais pour moi, c'était vraiment comme des expériences que j'avais avec des gens proches de moi, que je partageais ma musique, puis que s'ils aimaient pas ça, ben c'était une manière pour moi de juste me dire ben moi j'aime ça, puis même si tu penses que ce que j'ai créé avant c'était pas si bien, ben là j'en ai une autre, tu sais, puis je vais être meilleur cette fois-ci.
On écoute To The Next de Jade Asuni. What a life. You tell me to step through, it's what I like. I play you my track, but it's not what you like. No. And this one is done going live, but I'm like, what? But I'm like, what? But I'm like, what? Yeah. I just wanna do it how I want. I'm just gonna flip it my way. If you let me go, then it's alright. Yeah. Da 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 da. Cause I'm on to the next. Yeah. I know what I want and I'm on to the next.
I know what I want, cause I know what
you
I want.
You tell me that you liked, but I'm on to the next.
Wait.
and say what you think, but I'm on to the next, what, that song was bad, well I'm on to the next, da 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 to the next, next, to the next.
Yeah, sometimes people will tell you you're not a loving person, but I don't know. Don't listen to them, because you are.
What a life I'm living, but I keep giving. Always look for the light when it's dimming. You don't believe in nothing I say, but we rock the block till noon the next day. Okay, okay. It might not be the next step, but it's enough to get your best pants wet. Jumping on the best set. We can make bets. Say it ain't tight, but some say it's the best yet. And I ain't saying I'm upset, but I'm wishing we could ride on this music that we like. On this music that we ride. I've heard it before, there's no need to tell me again. You're closing your soul, it'll always be good in the end. I just wanna be who I am, cause I'm on to the next.
Yeah.
I know what I want and I'm on to the next.
Cause I know what I want, cause I know what
you
I
tell
want.
Tell me that you like, but I'm on to the next. Well, you can say what you think, but I'm on to the next. To the next. What, that song was bad, well I'm on to the next. To the next.
Nous sommes de retour avec Jade Assouni. Un autre rêve que tu chérissais, c'était d'être juge à Canada's Drag Race. Et ce rêve s'est réalisé en 2020. Tu as été juge invité. Ouais. Qu'est-ce qui t'attirait dans cette expérience?
Oh mon Dieu. Ben, RuPaul's Drag Race, c'était mon émission préférée pendant des années et des années. Et pour moi, vraiment top de ma liste. Genre, si, OK, si je fais ça dans ma carrière, tout fonctionne. C'est vraiment ça pour moi. Tu sais, être à RuPaul's Drag Race. Et j'en parlais à tous mes amis pendant 5 ans. Tu sais, vraiment, là, comme je veux faire ça un jour.
Donc, c'est
parce que c'était tellement spécifique. Qui, genre, quand ça s'est passé, c'était vraiment une confirmation encore que les rêves peuvent se réaliser, même s'ils ont l'air tellement impossibles ou improbables.
Inaccessibles.
Ouais. Et c'est vraiment venu dans ma vie parce que, tu sais, dans ce temps-là aussi, j'étais vraiment un petit peu découragé parce que je voyais pas vraiment que mes choses avançaient, même s'ils avancent. Mais quand t'es dedans, on dirait que ça avance pas, tu sais. Puis j'étais vraiment concentré sur ma musique, tu sais. Je me réveillais tous les jours, j'avais mon agenda, j'étais, OK, je fais ce step pour que ma musique avance, que mes choses avancent. Et en même temps, je vivais ma vie, tu sais, à côté. Je voyageais encore, je faisais encore des trucs en acting et tout. Puis, tu sais, j'ai rencontré, par exemple, Brooklyn Heights pendant cette période de ma vie. Tu sais, j'étais vraiment en mode fan. Là. Pour moi, rencontrer cette personne, c'était vraiment amazing. Mais c'était cool parce que j'avais fait une entrevue avec ET Canada Pride, où est-ce que le host du show, celui qui faisait les entrevues, était un grand fan de RuPaul's Drag Race. Donc, pour tous ses invités, il parlait de ça aussi. Donc, on en a parlé ensemble parce qu'il savait que j'étais fan aussi. Donc, on a pu comme mentionner quelques drag queens qui étaient dans la saison présente. On a parlé de Evie Oddly qui a fini par gagner, puis Brooklyn Heights qui est canadienne. Donc, à travers cette émission-là, parce que eux, c'était des invités aussi sur l'émission. Brooklyn était de la semaine d'avant, puis Evie Oddly allait le faire plus tard. Ben, on a été connectés juste à travers les réseaux sociaux. Tu sais, elle a commenté sur une vidéo parce que je l'avais tagué, genre. Puis après, j'ai rencontré Evie Oddly à Toronto par hasard, genre en regardant RuPaul dans un bar là-bas à Woody's. Puis là, j'ai entendu quelqu'un dire, Evie Oddly est là-bas, tu sais, il est en gars, juste assis, il regarde l'émission. Puis je suis allé me présenter, puis je dis, allô, je m'appelle Jade, il dit ouais, je sais. Ouais, comment ça? Comme... Ben, je t'ai vu à ET Canada, puis ça se peut que je le fasse la semaine prochaine, j'attends de voir mon manager. Donc, c'était juste comme naturellement, comme ça dans ma vie, tout d'un coup, j'étais en contact avec eux. Là, je disais, ok, ouais, nous, et quand après ça, je m'en vais à LA, je suis comme moi aussi, je m'en vais, c'est la finale de Sarah Hunters, donc je vais aller pour la finale. Il dit, ok, ben, on s'écrit, tu sais, nous aussi, c'est notre finale, en tout cas. Puis, même chose, Brooklyn, de son côté, me disait la même chose. Donc, finalement, je les ai pas croisés, mais j'ai vu les autres drag queens qui étaient dans la finale aussi, qui étaient aussi à LA, qui partyaient. En tout cas, c'est vraiment juste proximité. proximité de la vie, juste expérience de vie, mais jamais j'ai pensé comme « Ah, ça peut m'amener proche » ou rien de ça. Pour moi, c'était juste vraiment cool de les avoir vus. Et là, des mois ont passé, ils ont annoncé qu'il y a Canada's Drag Race. Ils annoncent que Brooklyn va être une des juges principales. Éventuellement, ce qui est fou, c'est que j'ai rencontré Brooklyn en personne à Montréal, parce qu'il était venu faire un contrat ici. Il m'a dit « Hey, t'es à Montréal, on va se rencontrer en souper, genre. » Mais quand on était à se rencontrer, on a parlé, tout ça. Ça, c'était avant qu'ils ont annoncé même qu'il y avait Canada's Drag Race. Moi, je savais pas. Ça, c'était juste avant la finale de RuPaul de leur saison à eux. Elle savait même pas si elle allait gagner ou pas. Et c'est ça, on a juste parlé. J'ai parlé de mes choses, d'où j'en suis, que je fais de la musique et tout. Puis je m'en souviens, quand j'ai sorti ma première chanson, elle l'a reposté sur Instagram. Puis j'ai trouvé ça super gentil. Puis c'est ça. Là, des mois passent. Il annonce Canada's Drag Race. Il annonce Brooklyn. Je me dis, oh wow, tellement cool pour elle. J'ai même pas pensé une fois que peut-être j'aurais pu être là-dessus, tu sais. Je me rappelle un matin, c'était comme en octobre 2019. Je prenais ma douche, puis tu sais, je pensais à ma vie. Puis là, tout d'un coup, je clique. Je commence à connecter les points, puis je me dis, ah, Brooklyn, que je connais un petit peu, va être juge à Canada's Drag Race. Ils font Canada's Drag Race. Je suis canadien. OK, ça se peut que peut-être dans 5 ans, ça se passe. Tu comprends? J'ai vraiment cliqué ça pour la première fois dans ma tête. Puis cette journée-là, j'ai eu le email de mon agent qui m'écrit juste normal, genre, hey, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu connais c'est quoi ça? Puis je suis comme, tu me niaises! C'était fou, là. Genre, j'ai appelé mon frère. Comme, il y a des gens qui étaient juste comme, no way, c'est impossible que ça arrive. Puis tu sais, j'ai pas dit à mon agent que je voulais faire ça. Ils savaient même pas que j'aimais l'émission. Ils m'ont juste écrit, ça te tente-tu de faire ça? T'sais? Est-ce que t'es intéressé? Puis moi, c'était genre un gros rêve. Ça s'est vraiment passé. Tu sais, vraiment, j'ai senti une genre de présence avec moi qui m'a juste dit, lâche pas, continue. Parce que check, même ce rêve qui était tellement spécifique que t'as rien fait en termes d'action pour que ça se produise, c'est rentré dans ta vie, tu comprends? Donc, ouais, ça m'a calmé beaucoup. Puis j'ai dit, OK, les choses vont se passer. Puis c'est un peu ça avec fierté aussi, même chose, ça s'est passé. Puis
une grande force de pensée créatrice.
Ouais. c'est quand même très cool. Puis c'est difficile de garder ça constant, tu sais, souvent, là. Pour tout le monde, je pense, même pour moi, tu sais, je suis un peu dans une période comme ça. Mais il y a toujours un genre de signe, un panneau qui arrive dans ta vie qui dit, voilà, tu vois, genre, t'es sur le bon chemin, continue. Donc, ouais, ça, c'est l'histoire de Drag Race. Ça s'est juste passé, c'est cool.
Ouais. Est-ce qu'il y a des drag kings aussi dans ces compétitions-là?
Pas encore.
Non.
Non, okay. Mais il y a une autre émission qui s'appelle Dragula. C'est plus des drag queens, genre gothiques, comme monstres. Puis okay. là-dedans, il y a des drag kings, puis un drag king qui a gagné. Mais c'est sûr qu'il va en avoir bientôt à RuPaul, là. Je pense que ouais.
À quel moment est-ce que tu as décidé de chanter en français? Parce que ton premier EP était en anglais,
ouais,
aussi.
Ouais.
Est-ce que c'est la chanson éphémère?
Ouais, c'est la première. Ouais. Donc, c'est drôle parce que plein de gens me disaient, tu devrais chanter en français aussi. Tu sais, t'as des fans en France, en Belgique et en Suisse et tout. Et j'ai comme, ouais, je suis sûr que ça va se passer. Et en fait, pour éphémère, j'ai commencé à travailler avec des nouvelles personnes. Et quand on avait décidé de se rencontrer pour commencer à travailler, je suis rentré en studio. Je venais d'apprendre que j'avais eu le rôle dans Alerte. Donc, je suis arrivé en studio, je dis, guys, j'ai un rôle en français. Tu sais, je vais avoir un rôle au Québec à TVA. Ils sont comme, ah, ok, ben pourquoi on fait pas une chanson en français? Puis on s'est tous dit, comme, ouais, ça ferait du sens. Tu sais, on pourrait tout lancer ça en même temps. Puis tout. Donc, on a décidé cette journée-là. On savait pas ce qu'on allait faire. On l'a écrit la même journée. Puis on a fait que le timing soit que ça sorte en même temps, qu'il y a Alerte. Puis tout s'est passé. Ouais, ça a vraiment fonctionné. Là. Tu sais, les radios l'ont pick up. Puis là, c'est comme ça que tout le monde en parle. Ils ont été intéressés. Puis j'ai fait un autre article dans la presse. Puis comme toutes les choses se sont connectées, puis je m'attendais pas à ça du tout. Là. Ouais.
Puis c'est ton premier extrait en français radiophonique aussi.
Exactement.
Là. T'es signé en Europe aussi. Est-ce que ça joue là-bas aussi?
Ça joue dans une ou deux stations. Tu sais, ça n'a pas trop pris de la même façon qu'au Québec. Mais tu sais, on a essayé. Là. On a signé avec eux. Puis on a vu pour la période que c'est, qu'est-ce que ça pourrait faire, quel angle on pourrait prendre pour là-bas. Tu sais. Puis c'est vraiment différent le style d'ici et de là-bas. Donc ça fonctionne très bien en radio ici. Mais on avance. Puis je sais pas. Je pense qu'on va essayer avec une autre chanson plus tard. Ouais.
Mais ici, ça joue.
Là. Ouais, ouais. Ici, ça joue encore. Là. C'est dans le top 50. Ouais, c'est vraiment cool.
Qu'est-ce que la musique t'apporte de différent que le métier d'acteur?
C'est vraiment une façon de m'exprimer qui est vraiment plus moi. Quand je suis acteur, je suis interprète d'une histoire de quelqu'un d'autre. Dans celle-là, je peux raconter mon histoire à moi. Même si je travaille avec d'autres gens pour écrire des chansons et tout, on mélange toutes nos histoires, tu sais, mais ici, c'est plus une forme d'expression plus pure, plus artistique, plus colorée, plus moi.
C'est plus personnel.
Ouais, c'est plus personnel. Quelque chose de plus le fun pour moi, de pouvoir chanter, danser, sentir la musique, tu sais, c'est vraiment plus vivant. C'est le fun, là. Tu sais, être, ouais, en studio, là, c'est comme un de mes endroits préférés.
Puis tu vas continuer à combiner les deux, être acteur et faire la musique.
Ouais, ouais, ouais. Toute mon équipe me dit, ouais, un côté va nourrir l'autre côté, puis ça va continuer de nourrir l'autre côté, puis ouais.
Mais on va justement l'écouter.
Tout est flou ce soir, des images qui se perdent dans le noir. qui s'enflamme, mon cœur qui renaît, de plus en désiré. Dis-moi si tu veux qu'on soit tous les deux, des étoiles à l'aube. Dis-moi si tu veux qu'on oublie un peu nos histoires. C'est fou.
Nous sommes de retour avec Jade Assouni. On sait que pour les communautés culturelles, c'est parfois plus difficile quand on fait partie de la communauté LGBTQ+. Tu t'identifies comme queer ou gay. Mm-hmm. Justement, tantôt, tu disais que tu as été capable d'être simplement toi-même. Tu en parles aussi dans les entrevues de ta réalité. En même temps, en parlant naturellement, tu deviens aussi un modèle magnifique pour les jeunes LGBTQ+. Étant donné que tu es connu à travers le monde, ça fait beaucoup de monde qui peuvent entendre parler de ça. Est-ce que ça a été difficile pour toi ou ça s'est fait vraiment naturellement?
Ça s'est vraiment, vraiment naturellement. J'ai jamais vraiment senti que je devais faire un coming out nécessairement, mais dans les moments où j'ai senti que je devais l'assumer vraiment spécifiquement, c'est quand j'étais dans des positions comme à RuPaul's Drag Race. Là, je l'ai vraiment dit pour la première fois. Tu sais, je suis tellement fier d'être gay pour pouvoir être justement cette voix pour les autres. Sinon, d'habitude, je vois pas pourquoi j'ai besoin de le dire nécessairement dans l'industrie ou dans les choses comme ça, parce que je pense qu'on est juste nous-mêmes. Puis tu sais, peu importe l'étiquette. Mais il y a des moments où, oui, je veux l'assumer parce que si j'étais silencieux, ben, ça ferait pas un service pour notre communauté, pour tout ce que je représente. Tu sais, moi, j'en suis fier, puis maintenant, puis c'est cool parce qu'avec la musique, je peux vraiment pousser ça à fond, tu sais, puis vraiment y aller, puis je m'en fous vraiment, puis même en acting, en fait, je m'en fous, tu sais, parce que ma job, justement, c'est d'être quelqu'un d'autre. Donc, que je sois gay ou pas dans la vie, on s'en fout, tu sais, pour de vrai, puis c'est ça mon message, en fait. Ouais, ça a pas été difficile nécessairement, tu sais, j'ai toujours été moi-même, je me suis découvert. Puis j'ai juste, tu sais, si le sujet apparaît, ben là, je vais en parler, mais c'est pas quelque chose que j'ai associé avec mon identité nécessairement. Puis je pense parce que quand j'étais jeune, j'observais les genres de personnages que tout le monde prenait, le genre de personnalité que les gens se mettaient, tu sais, genre juste à l'école secondaire, je remarquais ça. Puis moi, ça m'intéressait vraiment de voir ces genres de masques que les gens mettent juste dans leur personnalité. Puis j'ai aussi remarqué ça aussi quand des gens que je connaissais faisaient leur coming out, ben là, ils se mettent un rôle qu'on voit souvent comme stéréotype dans les films ou dans les trucs, tu sais, les trucs de... Puis là, j'ai vraiment remarqué ça, puis c'est ça que j'étudie, c'est pour ça que j'adore être comédien, parce que je mets un costume comme ça, tu sais, genre dans ma personnalité. Donc c'est vraiment le fun. Mais tu sais, j'ai vraiment observé ça, puis je me suis dit, ah, ok, je suis gay, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois m'habiller comme ça, parler comme ça, être comme ça? Pas nécessairement, tu sais. Il y a des choses que j'adore être ou, tu sais, exprimer, parce que c'est le fun, puis oui, ça fait partie de ma communauté, de ma sexualité. Mais en termes d'identité première, j'ai toujours pas vraiment été comme ça parce que je pense, tu sais, étant Libanais, mais avoir voyagé quand j'étais jeune pour arriver ici, puis vraiment être Québécois, mais venir du Liban, tu sais, je me suis jamais associé à même une identité culturelle non plus. Donc, je suis un peu entre les deux. Donc, je sais pas, ça m'a aidé à rendre la chose un petit peu moins comme, OK, je dois sortir d'une boîte hétéro et rentrer dans une boîte gay, tu sais. C'était pas comme ça vraiment pour moi, ouais.
Mais est-ce que t'as ressenti un impact auprès peut-être des jeunes ou de tes fans? Est-ce qu'il y en a qui t'ont écrit pour te dire que ça leur faisait du bien?
Tout le temps, souvent, tu sais. Puis même s'ils savent pas que je suis gay, tu sais, des fois, il y a des gens qui savent même pas, mais juste le fait que je soutenais les mouvements LGBTQ, parce que souvent... Mais ce qui est cool, c'est que Shadowhunters, c'était vraiment axé sur le LGBTQ, parce qu'une des histoires la plus célèbre de ces livres puis de cette série, c'est l'histoire des deux hommes qui s'aiment, tu sais. C'est vraiment un focus de la série. Donc déjà, le public était tellement... Tu sais, il acceptait ça, il célébrait ça, donc ça a été très facile de cette manière, ouais.
Malheureusement, j'ai pas vu les choses que tu faisais en anglais. Je sais pas si c'est encore disponible. J'ai trouvé quelques extraits de That's My DJ.
Ah, nice!
Je sais pas si c'est encore disponible, si on peut les visionner. Ouais. Moi, je t'ai vraiment connu dans Alerte.
OK, c'est cool, ça.
Je suis vraiment ton public type francophone.
Trop nice! J'adore ça. Mais oui,
mais j'aimerais ça voir ce que tu as fait.
Shadowhunters, c'est une série fantasy. Je joue un elfe, un chevalier elfe. Vraiment, c'est cool, là. C'est vraiment un genre de Buffy, mais mélangé au Seigneur des Anneaux puis Harry Potter.
Est-ce que ton personnage était un des deux personnages gays dans...
Non, mon personnage était bisexuel parce que j'étais une fée, un elfe genre, donc c'est vraiment fluide, tu sais, ce qui est très cool. Donc j'étais un petit peu là-dedans, tu sais, c'était vraiment cool de jouer avec ça. Puis en fait, ça c'est sur Netflix encore, hein, tout le temps. Et That's My DJ, c'est sur YouTube, donc c'est encore là. Puis That's My DJ, c'est cool parce que j'ai créé ça avec des amis que j'ai rencontrés à Toronto. Je l'ai filmé en même temps que Shadowhunters. Puis ça, c'est un projet 100% indépendant. On a fait un levée de fonds nous-mêmes. On a créé il y a trois saisons de ça. Moi, je suis dans la deuxième et la troisième. Puis c'est ma première fois que je jouais un petit peu un rôle de producteur.
Oui, c'est ça, la troisième saison, t'es devenu coproducteur.
C'est ça, c'est coproducteur. Puis j'ai commencé fan, moi, de cette série. Puis c'était 100% indépendant avec une amie qui s'est identifiée en tant que lesbienne. Mais maintenant, c'est différent, là, maintenant. C'était vraiment... le nightlife mélangé à la sexualité, genre queer. Parce que la deuxième saison, c'est vraiment une histoire d'amour entre deux femmes. Et moi, j'étais le meilleur ami de ces gens-là dans l'histoire. Mais ce qui est cool, c'est que ça a été créé un peu pour refléter la réalité, parce que mon amie, en fait, elle, c'était une DJ et c'était une batteur, comme elle jouait de la batterie, puis elle faisait les deux en même temps dans la vraie vie. Elle faisait des shows en faisant de la batterie et en faisant du DJ, genre pareil. Et aussi, elle était une réalisatrice, donc elle a créé une série qui parlait un peu de sa vie, mais c'était pas elle dedans. En tout cas, longue histoire, on s'est rencontrés. Elle m'a demandé, parce qu'elle voyait que je dessinais dans ce temps-là. Je dessine encore, mais comme j'étais en train de dessiner ou quelque chose, elle a vu, tu dessines, ouais, je suis en train de créer ces parties mensuelles à Toronto, est-ce que tu veux faire les posters? Fait que je dis oui, fait que j'ai commencé à dessiner les posters. Ça, c'était un projet à côté, là, à Toronto. J'ai dessiné les posters pour les parties. Puis là, elle a fusionné le tout parce que, en fait, on s'est rencontrés dans les parties à Toronto, dans la scène, puis tout ça. Puis après ça, je suis allé à la diffusion de la première saison de That's My DJ. Je suis arrivé en tant que spectateur. Je trouvais ça super cool. En même temps, elle me dit, je lance un party, est-ce que tu peux dessiner les posters? Oui, ok. Donc, anyway, on devient amis, on commence à lancer ça à chaque mois. Ça commence, c'était vraiment pas beaucoup de gens, 15 personnes. Là, à chaque mois, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Là, elle m'arrive, puis elle dit, puis dans ce temps-là, j'étais dans Heartland. Fait qu'elle me dit, viens chez moi, on va regarder Heartland, si ça joue à la télé. On arrive, elle me dit, j'ai vu tout ce que t'as fait à date, je trouve vraiment bon, est-ce que ça tenterait? Elle dit, je veux faire la deuxième saison de That's My DJ et j'ai un rôle pour toi. Je suis comme, no way. Elle me dit, oui. Puis aussi, je vais faire la troisième saison de That's My DJ puis tu vas être le personnage principal. Puis j'étais comme, non. Elle dit, ouais, je te jure. Je dis, ok, cool. Puis elle dit, ok, mais là, on va créer ça. Vraiment, l'équipe, c'était trois personnes. Moi, Emily Pickford, qui joue le personnage principal dans la deuxième saison, et D.W. Waterston, qui est la créatrice. Donc, on était vraiment un triangle et elle s'est dit, ok, on va faire tout nous-mêmes. On va lever les fonds, on va utiliser tout ça, on va pousser tout ça. J'ai dit, OK, let's go, on le fait. Puis là, dans l'histoire, en fait, l'histoire parle de le party qui s'appelait Homebrew, qui était un vrai party à Toronto, et aussi dans l'histoire. Puis mon personnage dans l'histoire dessine les posters, puis c'est vraiment une amitié comme ça. C'est cool parce que la réalité et l'art se sont vraiment mélangés. Là, ça a continué. La deuxième saison a super bien fonctionné, surtout dans les médias LGBT, tu sais, l'histoire lesbienne et tout ça. Puis c'était vraiment célébré. Là, vraiment, il y a eu beaucoup de views. Ça a vraiment été dans des festivals partout dans le monde. On a voyagé pour ça. Et là, en même temps, jusqu'à quelques mois de différence, on a filmé la troisième saison. Puis la façon que c'est fait, c'est un peu comme l'émission Skins, une émission en Angleterre. Comme chaque saison, le personnage principal est différent. C'est quelqu'un dans le groupe, mais ça change de focus. Puis c'est la même chose pour cette série-là. C'est vraiment une mini-série, là. Comme ça passe vraiment rapidement. Tu sais, les épisodes sont comme de 1 à 8 minutes max. Puis il y a juste 8 épisodes par saison. Donc ça se regarde vraiment rapide. Puis c'est vraiment, vraiment bien filmé. Puis vraiment cool. Donc c'est ça, là, on a sorti la troisième saison. Même chose, on a eu plein de festivals. Je suis allé en Sicile, en Corée, pour ce festival-là, justement, pour notre web series. Donc, c'était vraiment cool.
Wow, c'est vraiment génial, surtout que vous l'avez fait tout par vous-même.
Ouais,
là,
c'est vraiment nice de voir ça. Surtout la différence entre faire Shadowhunters et quelque chose d'indépendant en même temps, c'était fou.
Puis, t'as gagné plusieurs prix en plus pour That's My DJ.
Ouais, vraiment, là, on a gagné vraiment beaucoup de prix dans les festivals. Ils ont vraiment aimé ça, là. C'était spécial.
Tu parles que tu as beaucoup voyagé à travers le monde. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu la pandémie, tu serais allé, entre autres, en Corée du Sud, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et en Italie pour rencontrer les fans de la série américaine Shadowhunters produite par Disney. Est-ce que cette tournée-là, elle a été remise ou annulée?
On pense que... en fait, beaucoup de choses sont devenues online. Donc, on faisait encore les conférences, mais sur Zoom. Ce qui est cool, là, j'en ai fait une il y a quelques mois, en juin, et je vais en faire une autre en septembre pour la France. On s'en allait à notre quatrième année de faire cette tournée. Donc, il y a des choses qui ont été repoussées, des choses qu'on n'est pas trop sûr, on ne sait pas trop encore. Comme tout le reste, là, c'est vraiment, c'est vraiment dans le unknown. Mais ouais, ça devrait reprendre si les choses reprennent, là, on ne sait pas trop. Mais ouais, ça a vraiment interrompu, tu sais, un style de vie. Moi, j'étais habitué maintenant à voyager à chaque quelques mois, puis d'avoir la grosse tournée en été à chaque semaine dans un pays différent, puis tout. C'était vraiment quelque chose de spécial. Ouais.
Mais ça doit être difficile d'être en relation amoureuse quand tu es toujours en voyage comme ça, où tu rencontres des gens,
je rencontre des gens en voyage.
Faut que je reparte,
ou... Ouais, c'est vraiment ça. Je rencontre des gens, faut que je parte, puis là, mon cœur se brise plein de fois, puis tout. Ouais, ça a vraiment, ça s'est transformé dans ma vie, tu sais, revenir ici, puis même rencontrer des gens qu'eux-mêmes, ils sont jamais vraiment ici, ils sont en voyage, puis... Mais oui, j'ai rencontré plein de personnes magnifiques en voyage, puis en fait, j'ai écrit des chansons qui parlent de ça dans mon EP un peu, là, vraiment,
oui?
Ouais, parce que, tu sais, c'est un genre de solitude bizarre, t'es en tournée avec d'autres gens, c'est le fun, mais en même temps, t'es seul, puis tu dois toujours partir, donc c'est un petit peu bizarre. C'est un mélange d'émotions vraiment intéressantes.
T'as été parmi les trois finalistes du prix Choix du public du Fonds Cogeco,
oui.
Pour lequel t'as été invité à assister aux Canadian Screen Awards 2018. Et à toi tout seul, t'as accumulé plus de 2 millions de vote. C'est vraiment énorme. Est-ce que tu as dû t'ajuster à une aussi grande popularité?
D'une manière, ouais. Et d'une manière, non. Comme, tu sais, jeune, je me suis un peu comme préparé à ça. Tu sais, je pensais qu'un jour, j'allais vivre ça d'une manière. Donc, je savais pas trop pourquoi. Puis encore, je sais pas trop pourquoi, honnêtement. Mais j'étais un petit peu préparé dans ma propre pensée qu'un jour ça allait arriver. Fait que quand Shadowhunters est arrivé, c'était plus comme ah voilà, ça se passe, tu sais. Mais oui, il y a eu une période d'ajustement, puis je suis encore en train de m'ajuster. Par exemple, quand ils ont annoncé le rôle dans Shadowhunters, comme j'ai dû comme fermer toutes mes notifications parce que le téléphone s'était comme surchargé de tout là, sur Twitter puis Instagram puis tout. Donc j'ai comme tout fermé ça. J'ai changé ma relation avec les médias sociaux, tu sais, j'ai pris un petit peu plus de distance, puis tu sais, je reste moi pareil, puis je suis juste moi-même, tu sais, je me vois pas différent nécessairement. J'ai remarqué une différence un peu dans la façon que certaines personnes me traitent, même des personnes que je connaissais et tout, comme les gens que je côtoyais au travail et tout ça. Donc c'est vraiment étrange d'une manière. Mais en même temps, j'avais un groupe d'amis, on vivait tout ça ensemble, tu sais, toutes les gens qui étaient dans Shadowhunters, la plupart c'était nouveau. Donc on l'a vécu en groupe. Parce que c'était difficile d'expliquer un petit peu c'est comment, de vivre ça. Mais tu sais, en voyage, surtout en Europe, là, les gens nous reconnaissaient de partout, tu sais, n'importe où dans un petit village ou pas. Mais c'est cool parce qu'on était en groupe,
ouais.
Tu vois. Donc ça, c'est vraiment nice. Puis aussi, j'ai pu, tu sais, amener ma famille, mon frère, ma mère, mon père. Ils ont pu vivre un petit peu ça, tu sais. C'est vraiment cool de pouvoir partager ça. Et ce qui est encore plus cool, c'est vraiment rencontrer les gens. Parce que sur Instagram, tu sais, c'est comme ça passe, puis il y en a juste tellement que tu peux pas vraiment comme concevoir c'est qui ces gens-là, tu sais. Juste 100 personnes, c'est beaucoup d'humains là, ensemble, là, quand ouais. Tu multiplies et tout, c'est comme, c'est incompréhensible. Puis là, tu rencontres les gens one-on-one, ça c'est vraiment spécial parce que tu vois l'humain, tu peux vraiment connecter avec un autre univers et tu vois la personne et t'as vraiment une connexion comme tangible, puis ça c'est extra spécial. C'est ça qui était vraiment cool avec les conventions, mais aussi dans les rues, puis tout ça.
Mais t'as vraiment développé aussi une relation étroite. étroite avec tes fans. D'ailleurs, ton premier EP est sorti en 2020, s'intitule Love Letter to a Fandom. Qu'est-ce que tu avais envie de dire à tes fans à travers cette chanson-là?
J'avais envie de dire merci pour m'avoir donné mes rêves, vraiment, parce que c'est eux la raison pourquoi toutes les choses que j'étais capable de faire. Je voyageais le monde et tout parce que c'était eux, tu sais. C'est eux. En plus que, dans ce monde-là, genre, la fandom de Shadowhunters, tu sais, c'était vraiment à cause des livres qu'ils étaient méga fandom international avant la série. Donc, nous, quand on est arrivés, il y avait déjà leur royaume qu'ils avaient créé, établi, tu sais. Puis là, ils nous ont accueillis et ils nous ont juste comme pris et adorés dans leur monde. Tu comprends? Mm-hmm. Parce qu'il y avait déjà les personnages qu'eux, ils adoraient. Puis là, nous, on était la représentation télévision de ces personnages-là.
De ce qu'ils avaient lu.
Ouais, de ce qu'ils avaient lu. Donc, c'est vraiment eux qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de vraiment avoir ce lifestyle. Puis je voulais les remercier aussi, en même temps, leur dire que ce qu'on avait bâti ensemble, ça continuait, tu sais, ça va prendre une autre forme. Puis je voulais créer quelque chose qu'on pouvait célébrer ensemble et comme connecter. Puis la musique, pour moi, c'est ça, tu sais. Puis je voulais créer un son et un univers qu'ils pouvaient écouter quand ils s'en allaient au travail, tu sais, dans le bus, des choses comme ça. Que moi, j'adore la musique pour cette raison-là. Puis quand les gens me disent « Ah, je l'écoute tous les jours en allant au travail », tu sais, des choses comme ça, moi, ça me rend tellement joyeux. Fait que je voulais, genre, créer un lien qui allait durer au-delà de la série puis au-delà de l'écran, tu sais. Et c'est ça, c'était ma raison.
Mais on va l'écouter.
OK, « Love Letter to a Fandom », la chanson?
Oui.
OK, let's go.
To pass up, arguing you mad love. These things don't just happen. You've been weaving satin. It's too good to pass up. Arguing you mad love. These things don't just happen. You've been weaving satin. Went from mountain shadows to them making circles. To the world they follow. It just makes my heart grow. It's my way to give back. Something that's gonna last. You're on the right track. Frequencies that attract. You gotta turn it into things love. Love letter to a fandom.
This is where we dance, yeah. Come on. Just had to give it back, so here it is in its truest form. My love letter for your support. Through this adventure you've come along. You gave me love and made me feel strong. Now this journey is come and gone, but a new exciting one's just begun. Now we can sing together. Take this out whenever. Everyone is welcome. Dancing for love and love yourself for who you truly are. Rock the dance floor like you're the star. Find the peace that lies deep within you. Take all the hate and transform it into love. You gotta turn it into yep. Things love.
Nous sommes de retour avec Jade Assouni. T'es vraiment un artiste multitalentueux. Tantôt, tu disais, tu fais aussi de la bande dessinée. Est-ce que t'as déjà publié?
Non, jamais publié.
Mais est-ce que t'as l'idée de...
ouais, j'ai vraiment envie de le faire. Là, je fais un peu dans mes t-shirts, je fais des dessins, des choses comme ça. Le dessin, c'était vraiment la première chose que j'ai fait vraiment enfant à 2 ans. J'ai commencé ça parce que mon grand-père était peintre, puis c'est dans ma famille. J'ai juste jamais voulu rendre ça comme un travail. T'sais, je le faisais pour les gens que j'aime, des dessins, des portraits, puis pour le fun. Mais j'ai jamais voulu transformer ça en travail. Puis là, à un moment donné, j'étais à Toronto, je faisais une série Heartland à Calgary. So, j'avais le temps de m'inscrire à l'école part-time. Fait que je suis allé au collège, j'ai fait mon certificat de cartooniste et j'ai juste augmenté mes skills techniques. So, là, je suis comme plus certifié, disons. Puis j'ai plein d'idées. Puis des fois, j'ai fait, je les dessine. J'ai un Patreon où est-ce que je publie des choses des fois pour les fans. Toujours relié à la musique. Mais mes plans de faire vraiment une bande dessinée, ça prend forme lentement dans ma tête. Je sais que je veux le faire, mais pour l'instant, je suis plus comme focusé sur l'expression artistique externe, genre de la danse et tout ça, puis de la musique. Mais je vais faire ça éventuellement, je sais, là, c'est sûr.
Tu danses aussi, t'en parlais un peu tantôt. Tu dansais avec la troupe de danse Enigma Dance Productions, mm-hmm. avec qui tu t'es rendu en quart de finale à l'émission Canada's Got Talent. Est-ce que tu fais toujours partie de cette troupe de danse-là?
Non, c'est drôle. Puis même cette troupe de danse-là, ça faisait partie d'une autre école de danse avant et d'une autre avant, puis on s'est tous un peu retrouvés là. Je danse plus de la même manière que je dansais, parce que ça, c'était vraiment quand j'étais à l'école de théâtre. En même temps, j'étais à l'école de danse et je m'entraînais full-time en même temps dans une école puis dans une équipe de compétition. Puis lentement, en faisant plus vraiment de la danse full-time, parce que je voulais me concentrer sur le théâtre et tout, il y en a des élèves de cette école qui ont commencé un autre groupe qui est Enigma, et ceux d'entre nous qui faisaient ça un petit peu part-time, un petit peu d'à côté, on s'est rassemblés, puis là, l'opportunité de Canada's Got Talent est arrivée. Puis on m'a dit, veux-tu le faire? Je dis, ouais, ok, sure. Puis on s'est entraîné, on l'a fait, puis ça a fonctionné là. C'était vraiment une expérience intéressante. Vraiment une expérience qui m'a ouvert les yeux sur la télé. Même si j'avais fait d'autres télé-réalités au passé, j'ai fait une émission que j'avais genre 16 ans qui s'appelait Triple Sensation, okay, qui était genre une émission de compétition de triple threat, genre danse, chant et acting.
Puis,
c'était au Canada. C'était au Canada. Okay. Ils l'ont fait à Montréal aussi. Et c'est drôle, j'ai rencontré plein de gens que j'ai revus à travers ma carrière et ma vie, tu sais, dans ce temps-là. Puis c'était vraiment quelque chose de spécial. Ça m'a vraiment poussé. Ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Je savais un peu comment ça fonctionne, mais là, on l'a refait. Puis c'est vraiment cool parce que on dirait que c'est une compétition et tout, mais en même temps, c'est vraiment une émission de télé. Donc, il y a des choses qui sont comme vraies, des choses qui sont pas vraies. Mais c'était super de fun. C'est drôle parce qu'ils le refont maintenant au Canada's Got Talent. Ils vont le refaire. Je sais qu'ils ont été appliqués en tant que peut-être juge. C'est drôle parce que c'est comme la vie revient en full circle un peu. Puis celui qui castait pour les juges pour Canada's Drag Race, c'est celui qui fait maintenant Canada's Got Talent. Puis ils ont écrit à mon agent, ils ont dit, ah ouais, on a adoré Jade, comme c'est vraiment cool que vous l'avez proposé, tu sais, envoyez-nous des vidéos de lui en entrevue, juste au côté, je sais pas là, qu'est-ce qui va arriver avec
donc,
ça. Mais on sait jamais, tu sais, dans ce job, tu sais, les millions d'opportunités ou de jobs que je pensais que j'allais avoir, puis finalement, non, là, mais c'est cool parce que même juste avoir quelqu'un qui est intéressé à peut-être travailler avec toi, c'est quand même nice. Donc, tu vois ça comme des steps dans la bonne direction, là.
T'as travaillé aussi sur le jeu vidéo Starlink avec Ubisoft Toronto. En quoi ça consistait, ton travail?
Ça, c'était amazing. Ça, c'est une autre histoire aussi. Donc, un travail, c'était de vraiment jouer le rôle du personnage vraiment à 100%. Le corps, il capture les mouvements, dans le fond, dans un gros studio. Ça, t'as un costume avec plein de genres de balles infrarouges, genre, qui captent les mouvements. Sur ta tête, t'as un casque avec une caméra qui capte ton visage. Donc, ça prend les expressions de ton visage, t'as des petits points sur la face et il capture la voix. Donc, on jouait vraiment le rôle avec tout le monde. Tout le monde est habillé un peu en super-héros parce qu'on a des bodysuits, genre. Et dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous les mouvements puis ils mettent l'animation par-dessus. Donc, on est l'animation, mais on filme vraiment comme si c'était du vrai tournage de télé. Donc, c'était vraiment fun parce qu'on a fait toutes les missions comme ça. Ben, je veux dire, tous les jeux vidéo au complet. Ah. Chaque scène a été faite comme ça pendant genre 2 ans. Et après ça, en studio, on a fait toutes les voix qui sont plus comme quand les joueurs sont en train de jouer, tu sais, au jeu.
Tu t'en reconnais-tu dans le jeu?
Ouais, mais c'est drôle parce que le personnage était déjà designé, mais c'est mes mouvements de visage et tout, tu sais. Souvent, des fois, ils vont avoir des acteurs, ils vont vraiment prendre le visage de l'acteur, mais dans ce cas-là, c'était différent parce que c'était vraiment des cartoons, puis ils avaient designé les personnages avant d'avoir casté. Ouais, c'était super cool, puis c'était vraiment un bon contrat qui m'a vraiment aidé. C'était tellement le fun. Puis c'est tellement fun parce qu'il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de cheveux, tu sais, t'arrives vraiment genre relax, c'est dans un studio, super le fun. Ils te traitent super bien, c'est Ubisoft, ils sont incroyables. Et quelque chose de fou, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'étais un big fan du Nintendo, une 64, okay? Puis il y avait un jeu qui s'appelait Star Fox. C'est un renard dans l'espace, là, puis il y a des vaisseaux spatiaux, puis tout. Quand j'ai vu le jeu que nous, on faisait, j'ai dit à tout le monde, j'étais comme, eh, ça ressemble vraiment à... Puis c'est vraiment confidentiel, tout ça, tu sais, je voulais pas vraiment partager ça avec personne, mais avec les gens qui travaillent pour le jeu vidéo, je leur ai dit, ouais, ça ressemble vraiment à Star Fox, hein, ce genre de gameplay. Puis ils étaient comme, ouais, ils ont tout dit ça, puis j'étais comme, Star Fox, man, c'est tellement Star Fox, ça, c'est Nintendo. Je disais toujours, ok, c'est un peu un mix de Star Fox mélangé cher, blablabla. Et là, quand on a terminé le jeu, Ubisoft m'a appelé, ils m'ont dit, OK, on va t'envoyer un contrat de un NDA, Non-Disclosure Agreement, pour que tu gardes ça secret, mais on a un meeting à faire. Puis j'étais comme, un meeting secret? Puis j'étais comme, c'est quoi? J'étais genre, oh my god, je pense que je suis sûr que c'est Star Fox. Ils m'appellent, ils me disent, Jade, so, on sait que tu nous as parlé de ça, puis finalement, on a présenté le jeu à une conférence de jeux vidéo, et Nintendo a été tellement impressionné qu'ils ont décidé de rajouter Star Fox, le personnage de Nintendo, dans le jeu. Et que là, moi, j'étais genre, je l'ai tellement call, là, comme, je parlais de ça pendant 2 ans. Je comparais ça à Star Fox, à Nintendo, justement. Puis finalement, on est retourné en studio, on a refilmé le tout, puis là, moi, j'ai des scènes avec ce personnage renard dans l'espace, là, puis c'est fou, quand même. C'est vraiment, vraiment fou, tu sais, parce que c'est une autre idée comme ça, que j'étais comme, ah, ça ressemble tellement à ça, puis finalement, ça s'est rajouté, puis c'était officiellement devenu Nintendo Star Fox mélangé à notre jeu vidéo, là. C'était super bizarre et intéressant, ouais.
T'es très photogénique, c'est indéniable.
Merci.
Est-ce que le mannequinat, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Est-ce que t'en fais un peu? Ou...
J'en fais pour le fun, dans mes photoshoots, et des trucs comme ça. Je pense que je suis trop petit pour faire des runways, tu sais. Mais oui, c'est quelque chose que je serais intéressé à faire. Je pense que je vais peut-être commencer à faire plus de ça, parce que je pense qu'on va peut-être s'associer avec une compagnie de genre de mannequinat et autres genres de contrats. Donc, on verra comment ça va se passer, mais ouais, ce serait plus de ma façon, là. Peut-être pour des produits ou des choses comme ça, ou des campagnes, des choses du genre. Du runway, nécessairement, je sais pas trop, mais oui, j'adore être devant la caméra, je trouve ça cool, puis j'adore les photoshoots, je pense que c'est une ambiance super le fun, puis je serais prêt à faire des campagnes pour des choses qui me tiennent à cœur, des compagnies que je peux promouvoir, soutenir, qui vont avec mes valeurs, des choses comme ça.
On peut aussi trouver quelques vidéoclips que t'as fait sur YouTube. Est-ce que la plupart ont été tournés ici à Montréal?
Oui, ils ont tous été tournés à Montréal par Alex James, qui est une de mes meilleures amies, qui a fait tous mes vidéoclips. En fait, dans la performance de fierté que j'ai fait à Excellence, en arrière de moi, c'était mes vidéoclips qui étaient projetés, puis c'est lui qui a vraiment tout fait ça. Donc, ouais, j'ai vraiment rencontré des gens qui ont cru en moi dans cette période où j'étais pas trop sûr de comment j'allais faire le tout, qui m'ont vraiment supporté et m'ont vraiment soutenu, qui eux-mêmes m'ont poussé à faire ça, tu sais. C'est lui qui m'a dit, hey, on peut faire les vidéoclips, pas besoin d'avoir un géant budget, je suis capable de le faire, let's go, on le fait. Puis j'ai juste dit ok. Puis voilà, puis là on est rendu à, je pense, 7 vidéoclips qui ont l'air vraiment des grosses productions, mais vraiment faites 100% à Montréal, par des Montréalais.
T'as réalisé plusieurs de tes rêves déjà. Est-ce que t'as un rêve que tu chéris en ce moment?
Oui, c'est drôle. Ok, premièrement, je vais avoir un nouvel espace bientôt, le 1er septembre, que j'attends depuis. Ça fait 7 mois que j'attends cet espace. Puis ça va juste être une nouvelle période de ma vie. Je peux vraiment me poser, créer mon contenu, mes choses dans mon espace d'artiste. T'sais, j'ai vraiment hâte à ça. J'ai vraiment envie de faire des spectacles live, des festivals. Ça, c'est un autre rêve.
Est-ce que t'as eu l'occasion d'en faire déjà? Ou...
Non, pas encore. Tu sais, fierté, c'était un petit peu ça. Mais moitié virtuel, mais en même temps, j'ai pu le vivre avec mes gens, mes amis, d'une manière qui était inattendue, parce que tu sais, on pensait qu'elle allait même pas avoir d'événement en personne. Donc ça, c'était vraiment cool. Magnifique. Là, ça, il y avait tellement d'amour autour, là. C'était super cool. So, j'ai hâte à ça. On va voir comment ça va se passer. Puis non, j'ai appris un peu à, comme, changer mon intensité de vouloir des choses spécifiques, parce que j'ai remarqué qu'elles vont se passer de toute façon, fait que j'ai pas besoin d'être trop stressé. Et je sais pas, d'un jour à l'autre, je change de qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Des fois, j'ai envie de vivre une vie vraiment simple, tu sais, genre mon jardin, puis ma campagne, genre un petit peu. Mais en même temps, j'adore la ville, puis j'adore le nightlife, puis je sais pas trop où est-ce que les choses s'en vont, honnêtement. Tu sais, je veux grandir en tant qu'artiste local, je veux continuer de sortir des titres à la radio, je veux partir de quoi ici, tu sais. Je pense que je vais aller dans cette direction-là, puis voir comment ça se passe. Peut-être créer des business ou des choses à côté qui sont pas reliées à moi en tant que produit, tu sais. Des fois, j'ai envie que ce soit à l'extérieur de moi, tu sais. Peut-être justement écrire un livre ou écrire une BD. Créer quelque chose qui est comme pas moi, mais qui vient de moi peut-être, mais qui est à l'extérieur pour que je puisse gérer ça à côté, puis avoir un petit peu de recul, parce que des fois, je me perds dans... On dirait que je suis constamment dedans. C'est pas comme je m'en vais au travail, je reviens chez moi, ah voilà. En plus que j'ai pas de chez moi en ce moment, là, vraiment la semaine prochaine, je vais avoir mon appart, puis je vais être vraiment content. On dirait que je suis constamment dans le qu'est-ce que je veux faire, comment je veux faire. Ça m'aide des fois de me déconnecter un peu de tout ça. Tu sais, je prends des pauses des médias sociaux, puis tout. So. Je suis un peu dans cette phase-là. Je sais pas trop où les choses s'en vont, mais je sais que j'aime vraiment mon équipe. J'adore mon manager. J'adore mes amis autour de moi qui, eux, font leurs propres projets. Donc, ça me garde inspiré. Puis, on va créer de quoi ensemble. Je veux vraiment créer de quoi qui est plus comme indépendant, venant de moi encore plus qu'avant. Tu sais, genre, mon projet. Puis, je sais pas encore exactement c'est quoi. Je le fais dans des petits bouts, dans des chansons individuelles. Tu sais, on a une idée de EP ou d'album qui pourrait s'en venir. Mais je vois comment les morceaux fit ensemble.
Mais t'es un gars qui aime beaucoup collaborer aussi. aussi,
oui,
je pense.
Oui, j'adore collaborer. Puis j'adore collaborer même pour écrire des chansons. Tout le monde a une force, tu sais. Fait que c'est cool quand tu les amènes ensemble. Ça crée un résultat encore meilleur. Puis tout seul, je serais incapable de faire tout ça. Littéralement incapable. Mais juste moralement, genre, je serais incapable. Parce que j'ai des moments de freak out, là. Souvent, là, comme, on dirait que dans ma tête, ça fonctionne pas. Ou pas assez, ou pas encore. Mais comme, vu de l'extérieur, ça fonctionne très bien, tu sais. Et les gens autour de moi, eux, ils me poussent à, comme, réaliser que ça marche, faut juste comme continuer, puis ça va prendre forme, faut juste un jour après l'autre, on essaye, let's go. Puis c'est cool parce que ça me garde à terre, puis ça me garde focusé, parce que des fois j'ai des moments de, comme tous les artistes là, un petit peu de panique, des choses comme ça.
Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Tu parlais d'un film tantôt?
Ouais, il y a un film qui s'appelle Montreal Girls qui va sortir éventuellement, je sais pas encore où, dans les festivals sûrement, quelque part. Mais ça va être très bon, c'est un de mes rôles préférés à date. Je joue un chanteur punk dans un band. Ouais, j'ai enregistré des chansons vraiment comme... tu sais, du criage là, vraiment cool. Puis j'avais les cheveux verts, puis ils m'ont dit de les garder. Puis genre, j'étais vraiment punk là, comme tattoo, piercing partout. Les costumes étaient magnifiques, l'équipe était vraiment cool. On était une des premières productions qui a repris juste après les lockdowns. Puis c'est un film anglais, mais il y a du français aussi dedans mélangé, puis aussi de l'arabe, là, parce que c'est une histoire d'un Égyptien qui vient à Montréal, puis il se retrouve dans la scène punk à Montréal. Ça, c'est vraiment cool. Puis moi, je joue son cousin qui a grandi ici, puis je l'amène dans les parties, puis tout ça, tu sais, ça, c'est vraiment...
Toi, tu parlais trois langues.
Ouais, je parlais trois langues, mais mon personnage, il parle pas arabe là-dedans, par contre. Puis Manuel Tadros est dans le film aussi. Ben, ouais, il joue mon oncle. Non, ça va vraiment être un cool film. Il y a plein d'artistes de Montréal, toutes les locations, genre les endroits, les bars, tout ça, c'est des vrais bars à Montréal. Puis j'attends encore de savoir où ça va être diffusé. Puis aussi, j'ai un petit passage dans une série à TVA qui s'appelle Les Moments Parfaits, okay, qui va commencer en automne. Donc j'ai un petit cameo là-dedans aussi. Puis c'est tout pour l'instant.
Tantôt, tu disais que tu dessines pour faire des t-shirts.
Ouais.
Est-ce que c'est possible de se procurer ça?
Pour l'instant, il n'y a pas ça parce que j'ai fait ça pour comme une série limitée. Mais je vais créer une prochaine série limitée bientôt. Puis j'annonce ça sur Instagram. Là.
C'est ça, les gens peuvent te suivre sur Instagram.
Ouais,
ça, t'as une page Facebook aussi.
Ouais.
Je les ai vus, les OD. Puis,
ouais, c'est ça,
ouais,
exact.
C'est très beau, puis c'est Jade, et tu changes le A par un 4.
Un 4, exact, c'est ça mon nom de musique. So, ouais, c'est cool.
Je savais pas que c'était tes dessins qu'il y avait sur ce
Ouais, ouais, l'an avant, en fait, j'ai fait un dessin comme d'un elfe qui ressemble un peu à Melian, le personnage dans Shadowhunters. Puis je pense que je vais en créer à chaque saison une nouvelle série limitée. Puis c'est cool parce que, tu sais, on met un numéro vraiment 001, 002, puis on l'envoie partout dans le monde. C'est ça, je vais continuer comme ça à créer des designs. Éventuellement, j'aimerais ça vendre des impressions d'illustrations que je vais créer. Comme, je vais essayer de faire un genre de transition un petit peu lente entre musique, scène, tout ça, éventuellement livre.
Est-ce que tu as fait des CD de tes chansons?
Non.
Ou on peut acheter seulement sur le web?
Ouais, c'est juste sur le web. J'ai essayé, j'y ai pensé. J'ai failli faire des vinyles, je n'ai pas fait. Je voulais en faire. Tu sais, comme c'est. J'ai juste vu qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui était mieux de créer, genre, des CD ou pas de CD. Mais tu sais, souvent les fans, c'est comme, ils aiment collectionner des choses, puis ils veulent une version physique, mais je ne l'ai pas fait pour mon premier EP. Peut-être le prochain.
Mais c'est possible sur toutes les plateformes.
Ouais, toutes les plateformes. Ouais, toutes les plateformes, c'est là.
On va se laisser avec ta chanson Insta Story.
OK.
Est-ce que tu veux nous la présenter?
Ouais, Insta Story, c'était ma première chanson. C'est la première que j'ai sortie en tant qu'artiste. Ça parle de... Ben, tu sais, ça parle d'amour, un petit peu genre... Tu sais, ton cœur est brisé peut-être, puis là, tu vas sur Instagram, puis tu vois toujours la personne, puis c'est pause, puis c'est comme tu dis, je veux pas cliquer sur leur story, puis là, finalement, tu cliques, puis tu regardes. Puis ça, tu fais sentir comme de la merde. C'est vraiment ça. Donc, c'est une façon pour moi de juste comme reprendre mon pouvoir puis me dire je veux pas cliquer sur la story parce que je sais que ça va me faire de la peine, mais je le fais quand même. Puis c'est la première qu'on a sortie là. C'est cool parce que ça me rappelle tellement... ça fait déjà peut-être 3 ans, je pense, tout ça. Puis c'est nice de s'en rappeler là. Je sais pas, j'adore ça. Puis j'ai toujours adoré cette chanson.
Merci beaucoup, Jade Assouni. Ça a vraiment été un plaisir de te recevoir.
Merci, ça fait vraiment plaisir.
Sun is out, other side is the time, let's come out, I create for you. Take a drag, in a second you'll feel a lot better, I promise you. And I know that it means other things, but I want you to. But I know you don't need me. I know, you don't.
see me like I see you. To believe you, to forgive you. Focus my mind, then I'll be good. I'll forget you, then I'll see you. That's why. Not gonna think of all the dumb things then that I did with you.
Also, that's why.
I'm not gonna click on your icon to watch you stop me. Cause I know it's gonna hurt me. Tonight, I don't wanna lose all the love that I have for you. I'm on top. And I know that it means other things, but I want you to. But I know you don't. See you.
That's why.
I'm not gonna click on. I'm not gonna click on. That's why. I'm not gonna click on your icon to watch you stop me. I'm not gonna click on. I'm not gonna click on. I'm not gonna click on your icon to watch you stop me. You stop me. Your Insta stop me. I'm not gonna click on your icon to watch you stop me. Stop me, your Insta stop me. I'm not gonna click on your icon to watch you stop me.
That's why.
Not gonna think of all the dumb things then that I did with you.
That's why.
I'm not gonna click on your icon to watch you stop me.
That's why. Also, that's why.
Sarah's excited to celebrate her birthday at a restaurant. She's thought about it all week. She invited her friends. She got a new dress. She went to the restaurant. She wasn't allowed in the restaurant. She had to put away her new dress. She couldn't see her friends. And she thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. A vaccination passport is now required to enter certain public spaces. A message from the Gouvernement du Québec.
Following is a previously broadcast program.
Hello and welcome. You are listening to Underground Sounds on CKUT, and I'm your host, Nick Schofield. Thanks for tuning in. I'm with you every Monday from 8 to 10 p.m., playing all Canadian independent music on the radio. Currently, I'm broadcasting at 90.3 FM or online at ckut.ca. This is the Monday, February 1st, 2021 episode, and tonight I'm going to be playing a lot of new music by the likes of Ben Shemmy, Free Love Fenner, and Bernice. As well, I'll be playing new music by Coy Haste. This is Brad Weber's project, who is also the